Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. Le replay.
Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Bonsoir.
Les routiers sont toujours aussi sympas.
Et première question, les copilotes ne peuvent pas répondre pour le moment, et pas de tricherie évidemment aussi. De quel poète français sont ces vers qui ont annoncé le débarquement en Normandie ? Demain, 80 ans que les Alliés ont débarqué, et cette année, 80 ans que la France est libérée. Je vous propose de retourner quelques décennies en arrière, tous les détails dans un instant. Seul l'infotrafic sera de 2024 sur un peu plus de 4600 km d'autoroute, et pour le Sud-Ouest, la Générale de l'infotrafic, Marielle Nougaret. Bonsoir Marielle.
Bonsoir Sébastien, bonsoir Hervé, bonsoir les amis, ravi de vous retrouver ce soir pour cette spéciale.
Ça va Marielle ?
Oui, bah oui, bon, oui, parfait, oui. Bon. Tout va très très bien.
Et pour la vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen, notre GI des nouveaux événements, Hervé Améry. Bonsoir Hervé.
Quelle tâche. Bonsoir, bonsoir Sébastien, bonsoir Marielle, mais enfin je file au pas depuis ce matin.
Ah bah tu m'étonnes. Je vous retrouve tous les deux dans moins d'une minute. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 juin 2024. Bienvenue à toutes et tous que vous nous écoutiez en direct ou en replay.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir.
Ce soir, et vous l'entendez, retour plongé 80 ans en arrière. À ce même moment, les parachutistes prenaient la direction de la Normandie. Puis ensuite, après le feu vert météo, des milliers de navires ont pris la direction des plages pour une bataille qui sera un tournant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et la logistique dans tout ça, les camions étaient des combats et aussi de la vie civile. Nous allons partir à la découverte, ou peut-être pour certains d'entre vous, à la redécouverte d'une époque que nombreux considèrent comme un devoir de mémoire. D'ailleurs, qu'en pensez-vous de ce devoir de mémoire ? Est-ce que c'est une période de l'histoire que vous maîtrisez ? Selon vous, que faut-il avoir vu, lu ou entendu concernant la Seconde Guerre mondiale ou le débarquement en Normandie ? Écrivez-moi quand vous n'êtes pas en train de conduire, radio177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio. Et selon vous, faut-il poursuivre les commémorations militaire annuelle, c'est aussi notre sondage du soir, à retrouver sur la page Facebook, les routiers sont toujours aussi sympas, ou sur le site internet de la radio radio177.fr, il y a un bandeau orange, votez et venez me dire pourquoi ensuite. Hervé, est-ce que je peux avoir un jingle s'il vous plaît ?
Miam miam.
Oui, parce qu'on n'avait pas les moyens il y a 80 ans d'avoir différents jingles.
Donc, c'est sûr.
Et ce soir, trois paniers garnis pour vous, amis conducteurs routiers. Le 177, l'émission, vous font gagner trois lots en partenariat avec les aires de service. Ce soir, cela vous concerne. Si vous circulez sur l'autoroute A61, axe Narbonne-Toulouse, sur l'aire de service de Corbière-Nord en direction de Toulouse-Bordeaux, au kilomètre 340, comment le gagner ? C'est très simple. Il faudra vous rendre à la boutique de la station-service Avia. Vous présenterez à Loan en caisse votre carte professionnelle de conducteur routier avec le mot de passe que je vous dévoilerai tout à l'heure un peu avant 21h30. Et si vous êtes l'un des heureux gagnants, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur radio177.fr.
Sébastien,
oui Hervé,
on peut préciser quand même que c'est des paniers garnis, c'est pas des rations militaires.
Oui. Quoi que ce soit, on sait jamais, voilà, tout peut se passer. À la libération, c'était la fête, et avant de partir au combat, il fallait aussi pouvoir se détendre en permission. Alors parmi les nombreuses chansons de l'époque, il y avait quoi ?
Ah bah, il y avait un chef d'orchestre militaire, oui.
C'est quoi ?
Glenn Miller.
Glenn Miller avec In the Mood, reprise d'un titre de 1930 et sortie en 1940, et elle sera beaucoup diffusée en France à la fin de la guerre. Très bon début de soirée en ce 5 juin 1944. C'était Hervé à la trompette à l'époque.
Pas que, la trompette, à la batterie.
Glenn Miller, In the Mood. Eh ben oui, on savait aussi s'amuser à cette époque et heureusement parce qu'il fallait bien. Et des messages, on est déjà reçus évidemment. Il y a par exemple Laurent qui nous a écrit ce soir, qui nous dit « Bonsoir Sebamax et toutes les équipes. Oui, c'est très important, la mémoire du jour J. » Il nous dit qu'il suit tous les documentaires du 6 juin 1944. Et puis il nous a donné la bonne réponse à la toute première question que je vous posais ce soir. Marielle Hervé, est-ce que vous saviez de quel poète français étaient tirés les vers qui ont annoncé le débarquement en Normandie, Marielle?
Verlaine.
Mais oui, Hervé, vous le saviez aussi, j'imagine.
Paul
de son prénom, évidemment. Paul de son prénom en l'état. Merci à Laurent qui a trouvé, tout comme Monica qui nous a dit « Bonsoir l'équipe, les vers de Verlaine ». Effectivement, d'ailleurs on aura l'occasion de se reparler dans cette émission de ces vers de Verlaine. Continuez de m'écrire vous aussi, parlez-nous de ce que vous connaissez de cette période, mais aussi ce que vous pensez du devoir de mémoire. Est-ce que nous en faisons trop tous les ans ou pas? Avez-vous un livre, un film, un doc à nous conseiller sur cette période mouvementée de l'histoire de France où le pire, mais aussi le meilleur de l'être humain s'est exprimé? Et pour commencer, évidemment, un premier invité. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Jean-François Colombet, rédacteur en chef du magazine Charge Utile et notre historien de cette émission spéciale. Merci d'être avec nous. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un peu connaissance. Qui es-tu dans le milieu du camion et du transport et présente-nous ensuite ton magazine Charge Utile.
Je suis rédacteur en chef de ce magazine. J'ai l'honneur de l'être depuis des années et des années, depuis plus de 25 ans, puisque Charge Utile existe depuis en fait novembre 1992.
Ouais.
Et je suis moi-même passionné par les camions depuis mon plus jeune âge et j'associe comme rarement profession et passion.
Et ben voilà, et donc ça fait du bien. Alors avec toi, nous allons finalement commencer par la situation du transport routier de marchandises durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi avant et après. Et avant cette Seconde Guerre mondiale, le transport rail ou route, on va dire bataille rail-route, existait déjà, mais la situation était complètement inversée par rapport à aujourd'hui.
Oui, tout à fait. En fait, il se trouve que l'origine de tout ça vient du début des années 30, quand les manufacturiers, les principaux, commencent à sortir des pneumatiques haute pression pour les camions, qui vont permettre donc aux camions, et même les camions les plus lourds, d'abandonner les bandages et donc pour ces pneumatiques et effectuer des trajets de plus en plus longs, et quelquefois sur plusieurs centaines de kilomètres, et qui, de ce fait, concurrence totalement le rail, qui jusqu'alors effectuait l'essentiel des liaisons grande distance. Et pour juguler un petit peu donc le développement énorme du transport avant-guerre, le gouvernement français va édicter des décrets à partir de 1934 qui vont d'abord contingenter le nombre de licences pour les transporteurs, donc contingenter leur nombre, et ensuite limiter les poids et dimensions des camions.
Alors, c'était quoi les conditions de travail des conducteurs routiers de l'époque ?
Elles étaient encore plus dures qu'à présent parce que d'abord les camions ils n'avaient pas la fiabilité qu'on leur connaît maintenant. Ils nécessitaient un entretien suivi et beaucoup plus drastique qu'il ne l'est aujourd'hui. Il fallait des vidanges tous les 5000 km. Mais avant tout, donc les chauffeurs, du fait des routes de l'époque, devaient conduire longtemps pour arriver à livrer à temps. Et ils pouvaient afficher donc des journées de travail qui pouvaient atteindre 14 ou 15 heures, quoi. Et donc ils étaient presque, et c'était un métier de forçat à l'époque.
Mais il n'y avait pas le repos le dimanche, je crois.
Non, les trois quarts du temps, effectivement, ils roulaient toute la semaine, jusqu'au samedi midi ou au samedi après-midi, et le reste du temps jusqu'au lundi matin était dédié à l'entretien du camion.
Ah oui, donc oui, c'était du 7 sur 7, effectivement. Jean-François, reste bien avec nous, hein. Avec toi, nous allons voir comment les camions civils ont été réquisitionnés par l'armée également, puis on va se plonger un peu plus dans le quotidien des conductrices et conducteurs routiers de l'époque, parce que les conductrices, elles n'étaient pas encore tout à fait là à cette époque-là, évidemment. Selon vous, faut-il poursuivre les commémorations militaires annuelles? C'est notre sondage du soir à retrouver sur la page Facebook Les routiers sont toujours aussi sympas ou sur le site internet de la radio, radio177.fr. Il y a un bandeau orange, votez, venez me dire pourquoi ensuite. Et il y a tout pile 80 ans, à 21h15, il y avait effectivement ce message qui était diffusé par la BBC, « Blesse mon cœur d'une langueur monotone », c'était le deuxième vers de Paul Verlaine, et oui, c'était un 5 juin à 21h15 qu'avait été diffusé ce signal, notamment à la résistance en France, pour leur signifier que ça y est, le débarquement allait commencer.
Les routiers sont toujours aussi sympas.
Jean-François, tu pensais oui. intervenir après ce jingle ce soir? Alors, je me suis bien amusé à préparer cette émission, hein, quand même. Même si ce qu'on raconte, c'est pas forcément très drôle, mais c'est très important aussi d'en parler parce qu'on le voit dans les messages de nos auditeurs. Il y a Petit Joe qui nous dit c'est un devoir de tout Français de continuer la mémoire de ces hommes et femmes qui se sont battus sur le sol français et allemand durant cette seconde guerre, sans oublier le sol égyptien et Sicile pour le légendaire commandant commando Kiefer. D'ailleurs, on aura l'occasion forcément de reparler de ce commando dans le courant de cette émission. Jean-François, on a commencé un peu à parler du quotidien des conductrices et des conducteurs routiers de l'époque. C'était quoi les camions civils existants durant cette période ?
Alors, il faut savoir qu'en 1939, la grande majorité des camions récents sont réquisitionnés par l'armée française et pendant le conflit, beaucoup d'autres le seront par l'armée allemande. Donc, ce qui reste, ce sont des matériels relativement anciens, ceux qui sont encore équipés de bandages à l'arrière, notamment. Et donc, la majorité des camions qui vont circuler pendant la Seconde Guerre mondiale vont le faire au gazogène. Ils vont être donc fonctionnés au gaz de bois ou au gaz de charbon. Et donc, ce sont soit des véhicules neufs qui ont été produits en petit nombre pendant l'occupation, soit des véhicules qui fonctionnaient auparavant au gasoil ou à l'essence et qui ont été convertis pour la marche au gazogène.
J'allais dire, quand tu m'as dit gazogène, j'allais dire on était au préambule de la transition énergétique, mais après tu m'as dit gaz au charbon et gaz, gaz au bois,
c'est
moins bien.
Tout à fait, mais on va dire que la grande majorité des gazogènes pendant la seconde fonctionneront au gaz de bois, donc à partir de bois dur.
Alors, 1939, Jean-François, la guerre commence, la France capitule en 1940, et entre les deux, l'État français qui se rend compte que son décret rail-route, eh bien, l'a bien mis dans la mouise quand même.
Absolument, parce que donc les décrets qui sont passés à partir de 1934 ont eu pour effet de diminuer la fabrication de camions, puisque là, bon, effectivement, le nombre d'utilisateurs était contingenté. Et au moment de la réquisition, l'armée française s'aperçoit que dans certaines catégories de véhicules, et notamment par exemple les camions citernes, eh bien, il n'y a pas le compte en fait. En ayant réquisitionné tout le parc existant, eh bien, elle n'a pas encore effectivement le nombre de véhicules qu'elle avait sur laquelle elle avait fondé ses attentes. Quoi.
Alors, qu'est-ce qui va rester dans le civil finalement ? Alors, tu nous as parlé un petit peu de des types de camions, mais c'était pour transporter quoi ce qui restait comme camion dans le civil ?
C'est essentiellement des plateaux à ridelles bâchées, c'est-à-dire des carrosseries polyvalentes, quoi. Et les deux principaux modèles qu'on va trouver pendant la Seconde Guerre mondiale sont le Citroën 45 et le Berlier GDR, enfin la version gazogène GDR AG, quoi. Ouais. Ça va faire l'essentiel des effectifs de ces camions pendant la Seconde Guerre, quoi.
Alors, puis le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie, avec lui l'arrivée de premiers camions américains sur notre territoire. Nous verrons tout à l'heure avec notre prochaine invité leur utilisation durant le conflit, mais avec toi nous allons voir ces véhicules américains qui vont surtout participer à la reconstruction du pays après.
Absolument. Donc l'arrivée des camions américains à partir du débarquement, donc c'est vraiment le début d'une nouvelle ère, parce qu'il y a donc un certain nombre de véhicules qui vont arriver qui vont vraiment marquer l'après-guerre, à commencer par des véhicules tout-terrain très agiles et fiables qui vont après être utilisés même sur route de façon extensive. Le fameux GMC dont tout le monde a entendu parler. Il y a également également l'arrivée de véhicules qu'on ne connaissait pratiquement pas avant-guerre en France, qui sont des gros porteurs à trois essieux, donc à deux ou trois essieux moteurs, et donc des dépanneuses, et surtout la semi-remorque également. Donc là, elle est démocratisée par l'US Army. Avant-guerre, les semi-remorques, après avoir été autorisées, ont été pratiquement interdites par justement les nouveaux décrets. Et à partir de la libération, les semi-remorques qui ont été utilisées par l'armée française vont se retrouver en grande quantité utilisées par des transporteurs civils pour la première fois.
Oui, c'est ça. Alors justement, c'est intéressant parce que dans ce monde post-guerre à présent, comment s'organise justement la profession de la route? Comment ça s'organise tout ça? On imagine qu'il y a eu de gros changements après la guerre.
Bah, pas énormément. Ah. En tout cas, sur le plan organisation du travail et au niveau social, il n'y a pas grand-chose parce que donc l'essentiel des transports sont assurés par de petits transporteurs indépendants. Très peu sont syndiqués et c'est dans ce contexte justement que François de Saulieu fonde, donc à partir de 1934 et justement du fait des contraintes des décrets Rail-Route. Il va essayer de syndiquer un petit peu la profession et puis de protéger les routiers. Donc en créant d'abord un organe de presse qui s'appelle Les Routiers et donc un magazine qui existe encore actuellement. Et puis la fameuse chaîne de restos affiliés, les restaurants routiers que tout le monde connaît. Mais effectivement, côté organisation, dans l'immédiat après-guerre, il n'y a pas grand-chose qui change. Il y a du travail pour tous et en grande quantité. Donc le gouvernement va assouplir un petit peu les règles de façon à permettre d'assouvir les besoins en transport générés par la reconstruction. Mais au niveau individuel, si vous voulez, effectivement, il n'y a pas grand-chose comme changement.
Et du coup, on va attendre à peu près combien de temps avant qu'on connaisse un petit peu une revalorisation quelque part du métier, entre guillemets, après la Seconde Guerre mondiale? Faudra attendre combien de temps à peu près?
Oui, je pense que c'est dans les années 60 que ça va, qu'on va voir les choses. Ah oui, oui. Ça va prendre des années.
Alors, si tu avais un film, un livre, un doc à ne pas rater et à nous conseiller sur la période, sur cette, que ce soit avant, pendant, post-guerre, ça serait lequel pour toi?
Alors, pour ce qui concerne la période de la guerre, il n'y a pas grand-chose. Néanmoins, pour celle de l'après-guerre, et notamment le début des années 50, il y a des monuments comme les films Gasoil ou Des gens sans importance avec Jean Gabin, qu'il faut absolument avoir vu et qui donnent une image assez fidèle du monde du transport dans ces années-là. Et sur le plan des livres, il y a deux livres qui sont assez difficiles à trouver aujourd'hui, mais il y a un livre qui s'appelle Routier et qui a été signé par Louis Carreau et également National 137 de Claude Béziot.
Moi j'ai tout noté, figure-toi, comme ça ça sera pour mon week-end, tu vois, voilà. et pour finir, évidemment, la question de notre sondage de ce soir, même si je me doute un petit peu de la réponse, est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il faut continuer ces commémorations militaires annuelles?
Absolument. Ouais. Je crois que là, il y a un devoir de mémoire, mais également un devoir d'information pour la jeune génération. Quand on voit justement à présent comment l'histoire est enseignée à l'école, je pense que si on fait un sondage et qu'on demande à un ensemble d'une centaine d'enfants ce que signifie pour eux le 6 juin 1944, vous verrez un petit peu les réponses et je ne suis pas sûr qu'on obtienne justement la réponse qu'on souhaitait.
Je pense qu'on aura peut-être plus la date de naissance de ma grand-mère ou de mon grand-père. Voilà,
c'est un peu ça.
Voilà, mais je me doute. Bon, en tout cas, un grand merci Jean-François. On pourrait parler ensemble des heures et des heures, mais on a d'autres invités, mais je pense qu'on aura forcément l'occasion de se reparler dans d'autres émissions. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que tu es le rédacteur en chef du magazine Charge Utile. Très belle soirée, Jean-François, et à bientôt.
Merci et bonne route à tous.
Au revoir. Hervé Améry, est-ce que vous êtes là?
Présent, oui. On garde à vous.
Oui, j'ai besoin d'un jingle, s'il vous plaît.
Miam, miam.
Voilà. car je vous rappelle que ce soir, trois lots sont à gagner pour remporter l'un des trois. Il faut être sur l'A61, axe Narbonne-Toulouse, en direction de Toulouse. Il faut s'arrêter sur l'aire de service de Corbière-Nord, kilomètre 340. Et nous partons tout de suite dans l'autre. Je suis en ligne avec Thibaut. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous de la station service Avia sur l'aire de Corbière-Nord. Quel temps là de votre côté en ce moment ?
Eh bien écoutez, c'est une très très belle journée, il a fait très beau aujourd'hui. On a la chaleur qui commence à arriver un petit peu, donc ça annonce l'été.
Alors je sais que vous n'êtes pas vraiment du côté de Toulouse, un petit peu en amont, mais 29-30 degrés pour demain, il va falloir...
Oui, c'est dans ces eaux-là.
Voilà, c'est ça. Alors, présentez-nous un petit peu votre aire de service, aire de Corbière-Nord.
Eh bien écoutez, c'est une aire de service qui a été rénovée il y a à peu près 2 ans, donc elle est assez récente. Désormais, on a l'avantage de proposer une offre de café premium, en plus des offres de café classiques qu'on peut retrouver au distributeur. On a également une offre de bar à salade, où les clients peuvent concevoir leur propre salade. Ça laisse un petit peu cours à l'imagination pour ceux qui veulent tenter différents types de salades. Et après, nous, on axe beaucoup notre station, les produits qu'on propose sur tout ce qui est produits bio et produits régionaux. Vraiment, on a beaucoup de produits régionaux. On essaie de travailler pour faire en sorte d'avoir un petit peu de l'entrée jusqu'au dessert, donc des produits régionaux qui soient sucrés, salés, des produits frais. On travaille beaucoup là-dessus.
Et justement, vous avez préparé 3 paniers garnis pour 3 conducteurs routiers avec des produits régionaux. Dites-nous un petit peu ce qu'ils vont pouvoir gagner.
Exactement. Eh bien, écoutez, dans ces paniers, on a du pâté au chorizo qui a été fait pas trop loin d'ici, dans le coin.
Je prends.
Du cassoulet, évidemment, parce que Carcassonne, Castelnaudary, c'est juste à côté.
Voilà.
Et dans la partie un petit peu plus sucrée, on retrouve les rousquilles, le biscuit de l'enfance.
Alors en fait, vous nous avez fait entrée plat dessert, quoi.
Voilà, un petit peu. Et pour terminer, avec le petit café, il y aura des caramels pour accompagner.
Trop bien. Hervé, Marielle, vous prenez quoi en premier, vous ?
Oh, moi, je prends 2 couverts.
Moi, je prends le pâté, perso. Hein. Marielle, vous avez choisi quoi en premier ? Non, Marielle, elle doit être partie à la pêche aux infos pour le prochain point trafic.
Elle est en route.
Voilà. Ou elle est en route, c'est possible aussi. Je rappelle le principe, pour remporter un des 3 cadeaux, rendez-vous sur l'aire de Corbière-Nord sur la 61, axe Narbonne-Toulouse, direction Toulouse. Il faut vous rendre à la boutique de la station service Avia, vous présenterez votre carte professionnelle à Loan en caisse et surtout le mot de passe qui est ce soir. Je vous le donne dans le mille, Didet. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thibaut, et plein de courage à toute l'équipe.
Merci beaucoup, merci à vous, et courage à l'équipe pour ce soir.
Merci bien, et évidemment aussi plein de courage à tous les personnels des aires de service. Vous êtes-vous déjà intéressé aux camions de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils soient civils ou militaires ? Ce soir, nous retournons 80 ans en arrière pour mieux comprendre le contexte de l'époque, et nous allons continuer d'explorer le monde du camion et du TRM de cette période.
Les routiers sont toujours aussi sympas.
Ah, c'est le générique de cette émission spéciale jusqu'à 23h avec cette spéciale 80 ans de la libération de la France et 80 ans du débarquement en Normandie. Continuez de nous écrire radio177.fr. Je continue de recevoir vos témoignages. Cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message. Parlez-nous de votre façon de faire votre devoir de mémoire. Tiens, si vous le faites cette année, je ne sais pas si vous avez vu ces reportages, mais des élus qui réfléchissent à arrêter les commémorations annuelles car trop peu d'habitants y viennent ou s'y intéressent. Et vous, qu'en pensez-vous ? Allez, notre prochain invité, c'est le lieutenant Bidot. Bonsoir, lieutenant.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous, conservateur du musée du train et des équipages militaires à Bourges. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Entre 1939 et 1940, les transports sont sous la tutelle de ce qu'on appelait, ou appelle encore parfois, les ponts et chaussées. Mais en quelques mots, pouvez-vous déjà nous rappeler ce que sont les ponts et chaussées ?
Oui, alors en fait, effectivement, donc là, vous pensiez à des transports civils, effectivement, entre 1939 et 40, oui, le réseau de transport routier est géré par les ponts et chaussées, donc ils sont un corps assez ancien qui est créé en 1716, qui a été principalement chargé de la construction et de l'entretien des routes. Et donc effectivement, en 1939, la direction des ponts et chaussées, assure la coordination des transports routiers pour la partie civile. En revanche, pour tout ce qui est transport militaire, entre 39 et 40, c'est donc l'arme du train qui s'en charge et donc qui va à la mobilisation en fait constituer le noyau vraiment actif des différentes unités de transport mobilisées qui sont mises sur pied au début de la guerre et qui vont avoir un certain nombre de missions, dont notamment la mise en place des soldats dans leur secteur de combat. Et au début de la Seconde Guerre, c'est quand même assez important, puisqu'au 2 septembre 1939, l'armée française, c'est à peu près 2 430 000 hommes à mettre en place sur tout leur secteur d'activité.
Alors, au commencement de la guerre, nous avons commencé à en parler tout à l'heure. L'armée française donc manque cruellement de véhicules et doit aller piocher dans le civil et avec leurs conducteurs qui passent du coup automatiquement sous les drapeaux, c'est ce que vous me disiez. Mais ces camions qu'on récupère à l'époque, j'allais dire que vous récupérez, non, parce que vous êtes comme moi, vous n'étiez pas vraiment présent sur place à ce moment-là. Mais ces camions devaient être utilisés pour quel type de transport exactement dans le côté militaire ?
Alors, ça pouvait être des transports assez variés, évidemment le transport des hommes pour la première fonction, mais aussi bien sûr le transport de ravitaillement, autant de vivres fraîches que de matériel de campagne d'hiver, le transport de munitions, le transport de matériel de pièces détachées, de matériel de transmission, voilà, vraiment des missions de transport vraiment très vastes.
Et lieutenant Bidot, les entreprises sont totalement mobilisées dans l'effort de guerre à cette époque-là.
Oui, tout à fait. Alors, notamment les entreprises de production de véhicules. Par exemple, vous parliez des camions utilisés, notamment des camions civils mobilisés. On a eu des camions de marque française bien connus à utiliser dans l'armée de terre et dans le train en particulier à cette époque. Des camions Citroën, des camions Renault. Alors sur des modèles qui ne parlent peut-être pas forcément à vos auditeurs, mais le Citroën type 23 ou le type 45 par exemple, qui sont des camions de puissance assez modeste, de 42 ou 73 chevaux, donc qui ne sont pas des brutes de la route. Mais qui, à l'époque, servent parfaitement leur mission.
Alors, comment ça se passe, du coup ? Ça, c'est forcément une question qu'on peut se poser, parce que, bon, la France, OK, capitule en 40, et comment ça se passe entre 40 et la libération, sachant que beaucoup de militaires français ont tenté de fuir le pays avant de revenir au combat derrière. Tout ce matériel qui était sur place, on en a fait quoi ?
Alors, la plupart du matériel français, qui est resté après l'armistice, a été réquisitionné par l'armée allemande pour une partie, et ensuite le reste a été conservé dans des stocks pour être utilisé aussi par l'occupant en cas de besoin. Majoritairement, les soldats français ensuite dans les forces françaises libres ont beaucoup été équipés de matériel américain, avec le camion le plus emblématique, c'est le GMC, le CCKW, qui existe en de très nombreuses variantes également, comme le font beaucoup les Américains à la Seconde Guerre, avec des véhicules très adaptables, qui est vraiment l'archétype du camion militaire français, qui sera encore utilisé en Indochine, puis en Algérie. Donc qui est vraiment un outil qui a été robuste, qui a fait ses preuves.
Alors GMC, pour tous nos auditeurs qui comprennent, on parle de quoi sous GMC ?
C'est la marque américaine GMC qui existe encore aujourd'hui.
General Motors.
Plus que des camions. Ouais, c'est ça, tout à fait.
Ah, ben voilà. J'irai coucher moins bête ce soir, parce que bon... parce qu'on apprend plein de trucs avec vous depuis tout à l'heure. Alors, au 6 juin 1944, évidemment, c'est le débarquement. Mais tout commence, la préparation commence durant l'année 1943 en dehors du pays, où tout commence à se préparer pour l'assaut de la dernière chance. Mais le 6 juin 1944, quels sont les types de véhicules qui seront de la bataille ?
Alors pour ce qui est du train, des véhicules un peu plus variés, puisqu'en fait l'unité principale du train qui participe au débarquement, en tout cas le 6 juin et les jours qui suivent, c'est le détachement de circulation routière de la 2e division blindée, qui avait donc pour mission la coordination du transport, du déplacement des véhicules de la division blindée, donc qui pour sa part a des véhicules plus légers, qui se rapprochent plus de la moto, de la jeep, de petits véhicules qui circulent plus facilement. Ensuite, les camions viennent plutôt avec les groupes de transport qui sont moins présents au départ en Normandie, beaucoup plus dans la campagne d'Italie, la campagne de Provence, où là c'est encore une fois le GMC qui est majoritairement utilisé sur des routes un peu plus accidentées vu le paysage méditerranéen.
Alors justement, est-ce que certains de ces véhicules peuvent être visibles au musée du train de Bourges ? Qu'est-ce que nous pouvons voir d'ailleurs et apprendre de cette période en allant vous voir ?
Alors de manière générale, oui, au musée du train, c'est un musée qui couvre une période historique large, puisque l'arme du train est créée par Napoléon Ier le 26 mars 1807. Donc on peut couvrir une période allant du Premier Empire jusqu'à aujourd'hui. Et pour la partie purement Seconde Guerre, on a donc un espace au musée du train qui traite ce conflit allant de la mobilisation et donc la constitution de ces unités de transport en 40, la spécialité de circulation routière, les combats de Saumur aussi, puisque le train, c'est un peu moins connu, mais a participé au fameux combat de Saumur, puisqu'une compagnie d'élèves aspirants de réserve du train a combattu sur les ponts de la Loire. Et ensuite, évidemment, l'évocation de la recréation des unités des forces françaises libres, avec toute l'épopée de la colonne Leclerc, hein, partant d'Afrique du Nord, puis allant jusque en Normandie et faire la fin de la campagne jusqu'en Allemagne. Donc tout ça est disponible au musée du train. Il y a également des véhicules donc, de cette époque, hein, qui ne sont pas tous présentés au public, hein, la plupart sont dans nos collections, mais on peut retrouver du GMC, on peut retrouver des commandes-cars, un Dodge WC-56 américain qui a aussi été utilisé dans le train, des voitures aussi, enfin des véhicules spécifiques pour l'alimentation, hein, une Fuga modèle 1938 par exemple, qui est un camion qui a pu être utilisé autant comme cantine que comme boulangerie de campagne.
D'accord.
Donc c'est vraiment un panel
très complet. Très complet. Alors peut-être un avis personnel, si vous le pouvez, évidemment, lieutenant. Il y a eu ce coup de gueule du directeur du mémorial de Caen en début de semaine sur France 2. Il dénonce l'approche parfois à la limite du parc d'attractions de certains lieux en Normandie censés parler de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous avez un avis sur la question ?
Alors c'est toujours le problème, c'est que on a souvent tendance pour les sites comme ça de mémoire des conflits à parler de tourisme de mémoire. Et c'est tout le paradoxe, c'est que à la fois il y a cette notion de tourisme où effectivement on attire le visiteur parfois avec des éléments qui sont pas liés spécifiquement à la mémoire combattante, et en même temps voilà, il faut préserver ce côté assez solennel du souvenir des combats. Moi je dirais que techniquement il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon en fait d'amener un visiteur à s'intéresser aux conflits contemporains et à la mémoire de ces conflits. Après, le plus important, ça reste de préserver le caractère solennel, notamment des cérémonies officielles, des moments qui sont vraiment des moments de recueillement et où on honore nos anciens. Après, ce qui reste dans le domaine des environnements culturels, des musées, des sites touristiques, là, c'est différent et on peut se permettre un peu plus de souplesse.
Eh bien, un grand merci, parce que du coup, vous avez répondu à mes deux questions. Et il y a petit Joe qui nous a écrit quand même, il voulait savoir s'il y a un pacifique de l'armée américaine à votre musée.
Eh bien non. Non. Ah. Par contre, on a aussi un autre véhicule très emblématique qu'on a beaucoup vu là cette semaine en Normandie, puisqu'on a la chance, nous, d'être présents cette semaine aux commémorations.
Ouais.
C'est un Duke qui est aussi un GMC, mais qui a été adapté en barge de transport fluvial, donc qui est un camion amphibie assez sympathique à voir.
Eh bien voilà, et bien un grand merci. Puis on va vous souhaiter de belles commémorations. Lieutenant Bidot, je vais y arriver, conservateur du musée du train et des équipages militaires à Bourges. Et encore merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous vous souhaitons une très belle soirée.
Merci à vous.
Au revoir. Et on félicite Jason qui a remporté, alors Jason ou Jason, je ne sais pas comment on dit, parce qu'il y a toutes les façons de le dire. En tout cas, il vient de remporter un des premiers paniers garnis. Il nous a même envoyé un message. Merci l'équipe du 177 pour le panier garni. Je vous écoute tous les soirs. Changez pas. Bonne route et la prudence aux collègues. Hashtag corridor de sécurité. Signé Jason ou Jason. Je ne sais pas comment on dit. Je m'excuse d'avance.
Principe, c'est Jason.
Voilà. Merci en tout cas pour ce message. Et je vous rappelle du coup qu'il reste deux paniers garnis à remporter sur l'aire de Corbière-Nord. C'est sur la 71 axe Narbonne-Toulouse, en direction de Toulouse, en direction de Carcassonne, juste après la sortie 25 Lézignan, kilomètre 340. Vous présentez à l'OAN en caisse votre carte professionnelle de conducteur routier avec le mot de passe qui est Didet. Et si vous êtes l'un des heureux gagnants, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur radio177.fr vu que vous serez à l'arrêt.
Les routiers sont toujours aussi sympas.
Et nous replongeons dans 80 ans en arrière, hein, durant cette période. Vous faisiez quoi, vous, en 1944, Hervé ? Vous faisiez quoi ?
Bah, de la musique.
allez, non, plus sérieusement, vous suivez, vous, Hervé, un peu ces commémorations ? Vous essayez de suivre ?
Bah disons que je m'intéresse beaucoup à la géopolitique, à l'histoire, donc les théâtres de guerre passés, puis même ceux actuels. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mmh. D'abord pour savoir un petit peu les tenants, les aboutissants de toutes les situations. Et je trouve effectivement que c'est important de commémorer tout simplement pour ces gens qui se sont battus. Hein. Certains sont venus livrer bataille sur le sol européen. Je parle pour les Nord-Américains, les Canadiens, les Américains. À peine le premier pied posé sur la plage, certains sont restés là, troués par les balles ennemies. Oui. C'est dur, quoi. Mmh. C'est pour ça qu'il faut respecter au moins ça, des gens qui sont venus en Europe, qui ne connaissaient pas l'Europe et qui sont venus pour se battre donc contre la terreur nazie. Donc c'est important, très important.
Jérôme qui nous a écrit: bonjour Sebamax et l'équipe du 107.7. Pour le sondage, j'ai voté oui, il faut continuer les commémorations, c'est un devoir de mémoire. Il ne faut surtout pas oublier que beaucoup trop de personnes sont mortes à cause de la folie d'un homme. Et il nous dit: bizarrement, ce qui se passe à côté de notre frontière me rappelle la situation de début de l'époque. Un fou voulant agrandir son royaume, un respect pour tous ces hommes, français, américains, anglais, africains du Nord, a-t-il ajouté, qui sont venus se battre pour qu'on le puisse vivre dans un pays libre. Le bon courage à tous et comme d'habitude, pas d'imprudence, on vous attend à la maison. Et souvenons-nous qu'il y a 80 ans, beaucoup de personnes ne sont pas rentrées par devoir de nous libérer. Il nous dit: le premier camion des transports Cotra fut un camion de l'armée américaine. Après la guerre, on apprend des choses sur l'histoire du groupe de Lanchy. Merci beaucoup Jérôme pour ce message. Bourpif Royal qui nous envoie son petit coucou traditionnel du soir. Il nous dit qu'il n'est pas sur le réseau mais qu'il nous écoute sur l'appli. Ça c'est un très bon réflexe. Parmi les autres messages, il y a Alain également qui nous a écrit ce soir: salut toute l'équipe pour ce soir. Oui, il faut continuer de commémorer. Ça permet à certains de comprendre certaines périodes de la vie et de faire attention à ce qu'ils pensent pour éviter de refaire la même chose. Pour certains, les jours fériés correspondant aux commémorations ne sont que des jours sans travail. Je ne comprends jamais comment certains médias se doivent d'expliquer tous les ans pourquoi le 8 mai ou 11 novembre sont fériés. J'ai été militaire pendant 21 ans. J'ai d'ailleurs roulé en Jeep Willys lors de mon service militaire en France et à l'étranger, sur des théâtres d'opérations extérieures, pour défendre nos valeurs. Nous avons tous perdu des frères d'armes et nous nous devons de les honorer, même 80 ans ou plus après. Désolé du pavé, bonne soirée à tous et hashtag on roule à droite, hashtag on respectons les routiers, bonne émission. Merci Alain pour ce témoignage, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avec Jean-François, le rédacteur en chef tout à l'heure de Charge Utile. Si on fait malheureusement un tour des jeunes à l'école, en tout cas, en leur demandant qu'est-ce qui s'est passé le 6 juin 1944, je ne suis pas bien sûr qu'ils sachent tous nous répondre de quoi ils retournent exactement. Merci Alain pour ce témoignage. Message également de notre toupinette nationale. Bonjour à toutes et tous. Pour le sujet de ce soir, je suis entre guillemets concerné. Mon père aurait eu 102 ans le 14 juillet prochain et il a combattu pendant cette horrible guerre et c'est peut-être pour cela qu'il a souhaité, lorsqu'il fut garagiste, eh bien, racheter une dépanneuse Dodge au surplus de l'armée et la retaper pour en refaire, à l'époque, le plus imposant véhicule de dépannage de la région. Mon père est décédé lorsque je n'avais qu'une dizaine d'années, mais je garde vraiment le souvenir de ce camion qui fut très certainement à l'origine de ma vocation de routière. Félicitations à tous les passionnés qui maintiennent en vie ces véhicules militaires ou qui contribuent à ce que l'on n'oublie rien de cette époque durant laquelle beaucoup trop ont donné leur vie pour notre liberté et bien souvent sur un sol étranger. Et elle pose cette question: serions-nous aujourd'hui capables du même sacrifice? Portez-vous bien, signé Toupinette. Très bonne question, voilà. Et je suis même pas sûr que qui que ce soit pourrait avoir une réponse avec certitude. Allez, tiens, un autre témoignage, celui de Ludovic. Hello soldat Sebamax, hello soldat Marielle. Oh, ça va bien ça, Marielle, soldat Marielle. Et Hervé,
pourquoi pas.
Et Hervé, soldat Hervé, ce soir parlons d'Idel, le jour le plus long. Bref, le débarquement de Normandie, ce jour où la Seconde Guerre mondiale a pris un tournant radical. Ce sont des soldats qui ont tout donné pour libérer la France au péril de leur vie. C'est l'histoire de notre pays, c'est aussi l'histoire du monde. Alors même s'il reste plus beaucoup de soldats en vie qui ont participé à ce débarquement, il faut leur rendre hommage chaque année pour que des générations futures, on ne les oublie pas. Blague à part, Seb, à force de te tromper de bouton, il va falloir renommer l'émission en « Il faut sauver le soldat Sebamax ». C'est pas faux. Hashtag respectons-nous les uns les autres, hashtag corridor de sécurité, hashtag miam miam, hashtag une heure de plus, vendredi compris, bien sûr. Si Hervé aurait dû faire les hashtags nouveaux événements, il aurait fait plus d'une heure de plus d'émission à l'époque. C'est pas faux. C'est pas faux non plus.
C'est
non,
vrai.
Ouais, c'est pas faux. Et pour vous, quel est votre point de vue sur le devoir de mémoire? Faut-il en finir ou pas? Et pourquoi radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt? Et cette période de l'histoire, qu'est la Seconde Guerre mondiale, ces différentes batailles, est-ce que tout cela vous intéresse ou pas? Et pourquoi? Venez nous en parler. Dans la prochaine heure, nous irons à Angers, au musée du génie, et je serai en ligne avec un conducteur routier qui fait aussi partie d'une association de vétérans. Ce sera à 22h30.
Les routiers sont toujours aussi sympas.
Et nous sommes encore ensemble jusqu'à 23h pour cette émission spéciale qui nous replonge dans l'histoire de notre pays, mais aussi du camion, comme vous l'entendez.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir.
Bah oui, cette année, la France célèbre les 80 ans de sa libération et demain, les 80 ans du décarpement. Voilà, vous allez vous débrouiller avec ça. Du débarquement en Normandie. À cette occasion, nous revenons sur les camions de l'époque, de vos liens avec l'armée, mais aussi sur le devoir de mémoire. D'autres invités à venir durant cette seconde partie. D'ailleurs, qu'en pensez-vous de ce devoir de mémoire? Est-ce que c'est une période de l'histoire que vous maîtrisez selon vous? Que faut-il avoir vu, lu ou entendu concernant la Seconde Guerre mondiale ou le débarquement en Normandie? Écrivez-moi quand vous n'êtes pas en train de conduire, radio177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message, et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio. Et selon vous, faut-il poursuivre les commémorations militaires annuelles? C'est aussi notre sondage du soir, à retrouver sur la page Facebook Les Routiers sont toujours aussi sympas, ou sur le site internet de la radio, radio177.fr. Il y a un bandeau orange, votez, venez me dire pourquoi. Ensuite, Hervé, je peux avoir un petit jingle?
Miam miam.
Je vous rappelle qu'il y a plus que deux cadeaux à gagner, deux paniers garnis. Cela vous concerne si vous circulez ce soir sur l'A61, axe Narbonne-Toulouse, direction Carcassonne et Toulouse, sur l'aire de service de Corbière-Nord, kilomètre 340, juste après la sortie 25 Lézignan. Il faut vous rendre à la boutique de la station service Avia et vous présenterez à Sébastien Encaisse votre carte professionnelle de conducteur routier et le mot de passe qui est D-Day. Et si vous êtes l'un des heureux gagnants, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur radio177.fr vu que vous serez à l'arrêt. Alors, on s'est beaucoup parlé de Paul Verlaine depuis le début de cette émission, parce que oui, les vers, deux de ces vers ont été utilisés pour annoncer à la résistance par la radio le débarquement. Mais moi, j'ai fini par me demander s'ils avaient pris ces vers à Paul Verlaine ou s'ils les avaient pris à Charles Trenet. Est-ce que vous savez pourquoi, les amis? Est-ce que vous savez pourquoi?
Non, là je...
Dites-nous.
Parce qu'en 1942, figurez-vous que Charles Trenet avait fait une chanson sur Verlaine. Et écoutez bien par quoi il va commencer sa chanson. A tout de suite. Alors, Maria Lavey, vous connaissiez cette chanson de Charles Trenet? Ah bah, il n'y a plus personne du coup. Ils sont plus là. Ils sont partis vérifier leurs infos. Paul Verlaine.
On est de retour. Ah, voilà. Non, je ne connaissais pas.
Eh ben voilà, c'était Verlaine, tout simplement, chanté par Charles Trenet. C'était en 1942. Oui. Voilà. Et donc, je me suis demandé s'ils n'avaient pas plutôt piqué la phrase à Charles Trenet plutôt qu'à Verlaine. Enfin, on ne saura jamais. Parmi les messages reçus, il y a notamment donc, notre ami Petit Joe qui nous envoyait plein de belles photos. Je ne sais pas si les amis, vous avez vu toutes ces belles photos
qu'il nous a
envoyées, parce que c'est très intéressant, tout ce qu'il nous envoie en plus. Il nous dit « Salut la team, les carottes sont cuites ce soir, paraît-il. » Donc je te présente mon camion préféré de la Seconde Guerre, le fameux Pacific de l'armée américaine, 3,45 m de large, 7e le plus long, j'imagine. Juste le tracteur pour 240 chevaux, c'était le plus gros de cette Seconde Guerre mondiale. Il servait notamment à dépanner les chars Sherman en panne, car il était possible d'y installer un palan pour pouvoir changer le moteur en bord de chemin entre deux raids aériens. À l'époque, tu avais vraiment intérêt à ne pas oublier le corridor de sécurité quand même, hein, parce que ça pouvait être gênant, vu la taille que faisait ces mastodontes. Et puis, il nous rappelle une belle anecdote, les amis, notre ami Petit Joe. Il nous dit, n'oublions pas non plus la reine Elisabeth II, qui a servi durant la Seconde Guerre mondiale en tant que mécanicienne poids lourd. Et oui, qui, elle aussi, avait ses permis poids lourd. Vous en aviez parlé avec Elisabeth II, Hervé, d'ailleurs, à l'époque.
Oui, oui, mais elle avait le permis bateau, le permis avion, elle avait tous les permis, hein, c'était une reine.
Non, n'empêche qu'on rigole, mais elle a vraiment fait cette guerre, Elisabeth II. Elle faisait déjà force de courage avant même d'être reine. C'était impressionnant. Merci, Petit Joe, et il nous envoyait plein d'autres photos. Et il nous parle aussi de l'entreprise où il travaille, c'est les transports Turiz. Je sais plus si on prononce le S ou pas. Était déjà présent sur la photo. On y voit le grand-père de mon patron devant le premier camion des transports Turiz en 1939. Alors, je sais pas si vous avez vu la toute dernière photo qu'il nous a envoyée. Le Mercedes à pédale rouge.
Oui, électrique.
Électrique, oui, c'est vrai qu'il était électrique. Et juste à côté, il y a
La Jeep Willys,
voilà. D'ailleurs, on a l'occasion d'en parler de la Jeep. Oui, c'est rigolo.
Ah, oui, absolument.
Hein.
Et à côté, il y a un bourricot aussi.
Ça, c'est pour vrai. Moi.
À bascule, peut-être.
Oui, c'est pour moi, ça. Merci, en tout cas, pour ce message. Totoff, également, nous a écrit ce soir. Totoff, bel oeil. Bonsoir Sébastien et toute l'équipe du 107.7. Personnellement, je suis pour les commémorations. C'est une partie de notre histoire qui malheureusement est de moins en moins enseignée. Quant aux élus qui veulent annuler ce genre de commémoration, ils feraient mieux de démissionner plutôt que de raconter des âneries pareilles. Je préfère m'arrêter là car je serais mauvais envers eux. Bon bah ça c'est dit. Ça s'est fait. Merci pour ce témoignage et ce message, Totoff, bel œil. Et puis, il y a Marius également qui nous donne de ses nouvelles. Il nous écrit de temps en temps, Marius. Il nous dit « Bonsoir, moi, Marius, routier d'origine roumaine, résident en Espagne. Je suis enchanté d'écouter chaque fois votre émission. Très intéressant, le dialogue sur les camions de la Seconde Guerre mondiale. J'aime la France et les habitants de votre pays. Je viens toutes les semaines ici, très enchanté. » Merci beaucoup Marius, d'une pour votre message et de deux pour votre fidélité à l'émission. Et nous allons continuer évidemment de parler de cette époque, de cette période, les 80 ans de la libération, les 80 ans du débarquement en Normandie. Grâce à vous et grâce à vos messages, continuez de nous écrire radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt. Vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et parlez-nous de ce que vous connaissez de cette période, mais aussi ce que vous pensez du devoir de mémoire. Est-ce que nous en faisons trop tous les ans ou pas? Avez-vous, tiens, un livre, un film, un doc à nous conseiller sur cette période mouvementée de l'histoire de France où le pire, mais aussi le meilleur de l'être humain, s'est souvent exprimé?
Les routiers sont toujours aussi sympas.
Et donc une émission spéciale consacrée aux 80 ans. Tous nos invités sont tous, à mon avis, très surpris de passer après ce générique de la BBC d'il y a 80 ans, mais c'est pas grave. Bonsoir, colonel Aude.
Bonsoir Sébastien, bonsoir auditeurs.
Merci d'être avec nous, lieutenant-colonel et conservatrice du musée du génie d'Angers dans le Maine-et-Loire et dans votre musée de merveilleuses pièces de collection à voir. Colonel Aude, il y a notamment, et j'espère que je ne vais pas me tromper sur la prononciation, c'est le Brockway, mais de quoi on parle ?
Exactement. Tout à l'heure, on a parlé de GMC, de Jeep Willys, mais nous, dans le génie, on a eu la chance d'être équipés par les Américains d'un camion type Brockway qui permettait de ce fait de transporter les ponts en kit qui nous avaient été fournis par des Américains, notamment le pont Bélé, qui était un pont britannique, de construction et de conception britannique, mais que les Américains effectivement ont produit et nous ont fourni en fait avec ces éléments en kit qu'il fallait bien évidemment transporter à l'arrière de caisses, de camions, et ces ponts, ces camions de pontage nous permettaient de transporter tous ces éléments en kit. Alors juste pour vous donner une idée, pour un pont de 263 mètres, il fallait à peu près 36 camions Brockway et 24 GMC pour transporter tous les kits pour construire ce pont entre 6 et 10 heures en deux chantiers.
Entre 6 et 10 heures. Et ça, il fallait le... Alors, c'est peut-être une question bête que je vais poser, et ça va peut-être faire sourire nos auditeurs, mais je pense que c'est important pour toutes celles et tous ceux qui sont un peu novices là-dedans. Mais c'était un pont qu'il fallait construire des fois sous bombardement.
Alors, oui, on essayait, enfin, c'était plutôt en arrière, en avance ou en arrière, mais on essayait quand même de protéger ces équipements lourds, puisqu'il s'agissait de sécuriser les zones de franchissement. On préférait plutôt franchir de vive force avec des vedettes qui étaient elles aussi transportées à partir de GMC. Donc, on rappelle, GMC, General Motor Company, qui a été créé en 1903 aux États-Unis et qui a donc construit énormément de camions GMC qui ont donc équipé l'armée française jusque dans les années 70.
Alors, je préviens tous nos auditeurs, il faut bien écouter ma question jusqu'au bout avant de sourire. Mais ma prochaine question, colonel Aude, est-ce que vous avez des engins militaires qui servent encore aujourd'hui, mais de manière plus moderne évidemment ?
Alors on va avoir des engins de type pont avant flottant, comme des ponts avec des travées qui vont se déployer pour franchir des coupures humides, des ruisseaux. Donc effectivement, c'est beaucoup plus efficace avec une autonomie en fait de transport plus lointaine que nos GMC bien sûr de l'époque, qui consommaient énormément et qui ne roulaient pas non plus très vite.
Toujours en compagnie du colonel Aude, conservatrice du musée du génie d'Angers dans le Maine-et-Loire. Et lorsque nous avons préparé cette émission, vous m'avez également parlé de voies ferrées, colonel.
Oui, tout à fait. Le génie a la fonction depuis les années 1870 d'assurer en fait la circulation de ferroviaire lorsqu'il y a un conflit. Et c'est notamment ce qui a été le cas pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'on a gagné notamment la bataille de la Somme grâce au maréchal Joffre qui avait commandé le 5e régiment du génie, qui avait cette capacité de cette composante en fait voie ferrée. Et donc nous sommes en mesure à la fois d'installer ces voies ferrées, de les réparer, mais d'en construire de nouvelles. Et nous avons la possibilité de prendre la main sur l'ensemble du réseau ferré civil lorsqu'il y a un déclenchement en fait, de conflit sur le théâtre national, pour assurer à la fois le déplacement des troupes, le ravitaillement, bien entendu, et l'évacuation des blessés et le mouvement des troupes vers l'arrière du front.
Et ça, c'est une maîtrise que vous avez encore aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. C'est le 19e régiment du génie à Besançon qui est détenteur de cette composante voie ferrée.
Colonel Aude, de votre avis à vous, est-ce que vous constatez, vous aussi, une baisse d'intérêt sur le devoir de mémoire des Français ?
Alors globalement, je pense que les jeunes sont assez intéressés. Encore, il y a un renouveau, on le voit bien avec les journées défense citoyenne. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ce qu'avait dit Winston Churchill sur un peuple qui ne connaît pas son passé, se condamne à le revivre. Et ça, c'est important de redonner cette citation qui permet de comprendre à combien notre devoir de mémoire est important pour nous en tant que citoyens, parce qu'il fait partie intégrante de notre devoir par rapport à notre nation, et il nous permet aussi de se rappeler toutes les libertés que l'on a gagnées aujourd'hui grâce au sacrifice ultime que nos anciens ont eu. Donc c'est important, d'autant plus qu'aujourd'hui la rareté des témoignages de cette période, notamment 39-45, est imminente. Hein. On voit bien que les derniers, témoins.
On voit hier les reportages 90, 90, 95, voire 100 ans maintenant.
Voilà. Oui, je te donne par exemple l'exemple de d'Achille Muller, qui était un SAS français, qui est allé témoigner hier à l'école, aux écoles Saint-Cyr Couët-Quidan en Bretagne, et qui a transmis donc toute son expérience encore, et qui est encore debout et qui chemine la France entière pour témoigner en fait de ce qu'il a pu faire et de ce sacrifice, notamment de ses camarades qui sont restés, bien entendu.
Colonel Aude, je voulais qu'on termine eh bien par cette Jeep particulière exposée au musée du génie d'Angers.
Alors oui, c'est une Jeep Willys, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'elle est assez importante. C'est un véhicule qu'avait commandé l'armée américaine dans les années 40 pour pouvoir transporter 4 hommes et leur paquetage de 270 kg, ainsi que leurs munitions. Donc elle va être fabriquée tout d'abord par la société américaine Bantam, qui va avoir donc un droit de production, mais une autre société, Willys Overland Motors, va avoir aussi cette production, et on va retenir seulement le nom de Willys, et Ford aussi va en produire. Donc l'histoire va retenir seulement ce nom-là, et le nom de Jeep va être popularisé grâce au dessin animé Popeye.
Ah oui,
voilà, tout simplement. Et forcément, c'est ça en fait qui va donner un petit peu cet aspect international à ce mot. Et cette Jeep arrive, elle est en pièces détachées, hein, elle est livrée comme cela, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, comme elle va l'être aussi en France, et ce qui permet aux soldats en fait de la monter lui-même, eux-mêmes, et ils vont apprendre à la connaître ainsi. Voilà. Et vous avez une journaliste qui est importante en 1943, une journaliste américaine, Washington Daily News, qui explique que tout simplement, grand Dieu, je ne pense pas que nous pourrions continuer la guerre sans la Jeep. Elle fait tout, elle va partout, elle est aussi fidèle qu'un chien, aussi forte qu'une mule et aussi agile qu'une chèvre. Elle transporte constamment deux fois plus que ce pour quoi elle a été conçue. Elle avance partout. Donc c'est une véritable fourmi. Oui. Elle ne rechigne pas devant la tâche, et c'est ça qui est assez formidable.
Une très belle citation. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'en 1946, Georges Ulmer, alors je pense qu'il est inconnu totalement de nous tous.
Non.
Ah bah tiens, je m'en doutais.
Son titre le plus célèbre, c'est Pigalle.
Oui, mais vous savez qu'il a aussi écrit la chanson Ma voiture contre une Jeep, figurez-vous. Et c'était en 1946. Je pense qu'il voulait avoir une Jeep aussi. Bah, je voulais dire un grand merci au lieutenant-colonel Aude d'avoir été avec nous ce soir. Et je rappelle que vous êtes conservatrice du musée du génie d'Angers dans le Maine-et-Loire, accessible par les autoroutes A11, A87 et A85. Très belle soirée, colonel. À très vite.
Merci Sébastien, bonne continuation et bonne route à tous les auditeurs.
Allez, une voiture contre une Jeep, Georges Ulmer, c'est spécial dédicace pour le colonel.
Excellent, merci.
Jeter mon chapeau dans le panier.
Ouais, bah c'est pas sympa de jeter le chapeau dans le panier, hein. Allez, Georges Ulmer, ma voiture contre une Jeep, petit extrait de cette chanson de 1946. Et oui, on voyage dans le temps ce soir dans cette émission spéciale 80 ans de la libération. Gilles qui nous a écrit, pom 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 pom, bah c'est lui qui a écrit, hein, je fais, hein. Le diesel est chaud, je répète, le diesel est chaud. C'est Babac Satan, miam miam au mess. Je répète, c'est Babac Satan, miam miam au mess. Non, miam miam, c'est Hervé. Lui, il attend toujours le miam miam au mess. Vous avez été au mess, vous, Hervé? Vous avez servi au mess ou pas? Non? Je sais pas. Hervé, il est pas là, Hervé. Il est parti voir l'infotrafic en 2024.
Il veut pas répondre.
Oui, voilà, c'est ça, il ose pas. Honneur à tous ces soldats américains, anglais, français, écossais, etc., qui, 80 ans en arrière, ont eu le courage de venir sur nos plages françaises le 6 juin 44, sans oublier la résistance qui avait fait sauter les moyens de communication et les voies ferrées pour empêcher l'ennemi de communiquer, d'envoyer plus de forces par voie ferrée. Nous devons nous souvenir et honorer tous ceux qui se sont impliqués pour libérer la France. Gilles qui ajoute, grâce au guide Michelin de 1936, bouquin très rare distribué à tous les gradés avant le débarquement, ils avaient toutes les informations sur les routes et voies ferrées, les endroits où se rassembler et a priori se restaurer. S'ils avaient le guide Michelin, à mon avis, ils devaient aussi avoir les bonnes adresses. Bonsoir Boulon.
Ouais, bonsoir Sébastien.
Comment ça va?
Ça va très bien. Et bonsoir à tout le monde.
Et très sympa d'être avec nous ce soir, Boulon. Alors, je vais te présenter en quelques mots, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Conducteur routier, ancien militaire et membre d'une association de vétérans. C'est ça ? C'est ça. Voilà. Alors, d'ailleurs, Boulon, ça vient, c'est un surnom qui vient de la route ou de ton passé militaire ?
Non, mon passé militaire, je l'avais expliqué l'année dernière quand j'étais passé à l'antenne, que c'était lié à mon origine de Lorrain et de ma famille qui était allemande, donc Boulon, casque à pointe.
voilà. Ouais, mais c'est important de le rappeler pour tous nos auditeurs qui ne te connaissaient pas encore. Alors, Boulon, tu as fait quoi, toi, dans l'armée ?
Alors moi, dans l'armée, j'ai fait 9 ans au 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine.
Ah oui, ça commence à être du lourd, là.
Le RIMA.
Voilà, ouais. RPIMA.
Le RPIMA, Hervé. Le RPIMA. J'imagine que toi, ces commémorations sont très importantes pour toi à chaque fois.
Ah ouais. Ouais, j'écoutais toi, depuis le début avec tous ceux qui disaient que les commémorations, en fait, c'est quelque chose, c'est le devoir de mémoire.
Ouais.
Nous, avec l'association dans laquelle je fais partie, là, les French Army Vets, nous, tous les ans, on fait notre assemblée générale et on fait une commémoration sur un lieu.
Ouais.
En 2017, on a eu la chance, comme tu parles du département et la période avec le 6 juin, en 2017, on était en Normandie.
D'accord.
Malheureusement, on y était le 4 et le 5 juin.
Ouais.
Mais on était en plein dedans. Quoi.
D'accord.
Et on a fait une commémoration à Saint-Hilaire-l'Église. Et après, on a fait.
Alors.
Alors,
ce qui est intéressant, l'association s'appelle la French Army Vets MC, hein, dans le nom complet qu'on peut retrouver sur la page Facebook. C'est quoi, pour réexpliquer à nos auditeurs, parce que là, pour le coup, c'est très intéressant, parce qu'on est parti ce soir de la situation des transporteurs routiers, conducteurs routiers pendant la Seconde Guerre mondiale. On a vu un petit peu tout le matériel qu'il y avait, on a discuté avec tous nos invités de comment les choses évoluaient. Et toi, finalement, cette association, elle parle à ceux qui sont dans l'après de la guerre, finalement.
Alors, il y a les deux.
D'accord.
Dans l'association, il y a des anciens, donc des vétérans, où 80% des vétérans ont la carte d'anciens combattants.
Mm-hmm.
Donc, pour la plupart, on a tous été sur des opérations extérieures où on a eu la reconnaissance de la nation et la carte du combattant.
Mmh.
Et il y a 25% de membres de chez nous qui sont encore en actif.
D'accord.
Ils sont encore militaires à l'heure actuelle.
Ok. 25% donc de l'assaut.
Ouais.
Voilà. Et vous vous adressez, pour le coup, c'est quoi les objectifs de votre association ?
Alors, nous, les objectifs. C'est de récolter des fonds et de faire des dons pour les blessés de l'armée française.
Pour les blessés de l'armée française, oui.
Tout à fait. Nous, on fait des événements et on récolte de l'argent par le biais de nos événements et des ventes de ce qu'on a dans nos boutiques. Et cet argent-là, on la reverse à des blessés de l'armée française. L'année dernière, on a reversé aux fusiliers marins. En Bretagne, l'année d'avant à la Légion étrangère à Aubagne, où on est allé voir les anciens à Sainte-Victoire là-bas. Là, cette année, on a déjà remis un chèque en début d'année, là qu'on était le mois dernier, on était en Alsace, on a remis un chèque au régiment de Marsuchad, OMT pour l'aide je cherche mon nom. Je me suis égaré.
Il y a plein de noms en même temps.
C'est ça, mais après, nous, le but, c'est ça, quoi. C'est d'essayer d'aider et de venir en aide par le biais de ce qu'on a vécu, nous. De venir en aide aux blessés de l'armée française.
D'accord. Et moi, par exemple, c'est sur ces commémorations, bah là, tu travailles ce soir et j'imagine du coup demain, mais tu essayes souvent de t'arranger pour pouvoir assister à ces gros événements qui peuvent se produire tous les 5-10 ans
sur la Normandie, je veux dire.
Ouais, par exemple sur la Normandie.
Après la Normandie, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que cette année, les 80 ans, j'ai plein d'amis et d'anciens militaires avec qui j'étais, des frères d'armes et tout, qui y sont actuellement là. Ils y sont déjà depuis une semaine. Pour certains avec des véhicules militaires, d'autres qui ont sauté en avion aujourd'hui là avec les avions américains et ont tenu d'époque.
Ouais.
Qui ont fait un saut et d'autres qui sont là-bas juste pour la commémoration, pour participer.
D'accord.
Alors, mais moi, c'est vrai que c'est un gros événement. Quoi.
Ouais.
Il faut le faire au moins une fois. On l'a fait en 2017.
Oui, comme tu disais.
C'est vrai que c'est fort. Après, pour le visiter, comme j'écoutais tout à l'heure, c'est peut-être pas la bonne période pour visiter les plages et tout ça pour... quand il y a les commémorations.
Ouais.
Il y a énormément de monde.
Oui, bien sûr. Moi, j'avais une dernière question pour toi, parce que je me la suis posée en préparant cette émission. Forcément, dans ton passé militaire, tu as dû peut-être croiser des soldats, qu'ils soient français ou non d'ailleurs, qui ont participé peut-être à la Seconde Guerre mondiale. Tu as eu la chance d'en rencontrer, d'en croiser, d'échanger avec eux?
Alors, j'en ai vu deux. Dans mon village où je suis actuellement, quand je fais les commémorations du 8 mai et du 11 novembre, parce que je fais partie des anciens combattants et je suis aussi là pour le devoir de mémoire, comme tu disais, c'est quelque chose de très important et qui ne doit pas se perdre, qui malheureusement se perd, mais on va en parler. Mais j'ai discuté avec qui ne sont plus là aujourd'hui, malheureusement.
Oui.
Donc chez moi, à part des anciens de la guerre d'Algérie, il n'y a plus personne de 39-40.
Mais quelque part, d'avoir échangé, d'avoir eu la chance pour le coup d'avoir échangé avec eux de ce qu'ils ont vécu, ça, quelque part pour toi, ça rend encore plus vivant, j'ai envie de dire, ce souvenir.
Ouais, mais tout à fait. Ouais. C'est très important.
Eh bien écoute, un grand merci Boulon d'avoir passé ces quelques minutes avec nous, de nous avoir présenté ta belle association qui récolte des fonds pour les blessés de guerre, les soldats blessés. Et puis on te souhaite plein de courage et une belle route.
Ben, je te remercie, si je peux me permettre.
Bien sûr.
On organise un événement, tu peux?
Bien sûr, vas-y, on t'écoute.
On organise un événement du côté de Narbonne au mois d'août.
Ouais.
Ça s'appelle le FAF Day, l'American FAF Day. Et c'est une journée où on récolte des fonds justement pour les blessés.
Très
et
bien.
En tête d'affiche, il y aura Will Barber qui sera là pour chanter. Quoi. Donc s'il y a des gens qui sont fans hein, pour venir.
Rappelle-nous la date.
C'est le 24 août.
24 août à Narbonne, c'est noté. Je mets dans les tablettes pour la page de l'émission.
C'est gentil et merci d'avoir pensé à moi et à mon association.
Avec grand plaisir. Merci à toi de ton action et de toute celle de l'association. Très belle soirée, plein de courage et la prudence, évidemment.
Merci et bonne émission.
Continuez. Salut. À bientôt.
Les routiers sont toujours aussi sympas.
Il va me manquer ce jingle, il va me manquer, je vais le dire.
Mais faites-vous plaisir.
Alors, j'ai posé la question à Hervé, mais Marielle, je ne voulais pas poser. Pour vous aussi, Marielle, le devoir de mémoire, c'est important ou peu importe?
Ah non, moi, c'est important.
Oui, c'est important, il faut...
Même si ça se perd, mais c'est important. Oui, il y a des devoirs comme ça qu'il faut respecter, c'est vraiment...
Ouais, eh ben, c'est une bonne réponse de Marielle Dougaré. Et d'ailleurs, faut-il poursuivre les commémorations militaires annuelles? Eh bien, le résultat est sans équivoque. Vous êtes 85,7% à nous dire que oui, 14,3% à nous dire que non. Donc je pense que l'avis est quasi unanime. On peut le dire comme ça.
Oh oui.
Oui. souvent,
en discutant comme ça avec beaucoup de monde, j'ai une réflexion qui remonte. On me dit, mais non, faut pas ressasser le passé, c'est le passé. Mais souvent, dans le passé, on lit l'avenir, on voit ce qui se passe sur l'Est de l'Europe, aux frontières de l'Ukraine, c'est vraiment terrible. Donc, faut penser, se rappeler le passé, ne pas l'oublier, faire en sorte de ne pas faire les mêmes erreurs et surtout rendre hommage à toutes ces personnes qui se sont sacrifiées à un moment ou à un autre pour leur cause. rose.
Et Guillaume qui ajoute, qui nous a écrit ce soir. Bonsoir Sébastien, Marielle et Hervé. Bien sûr qu'il faut continuer les commémorations et l'étude des dates importantes. Je serai aussi favorable à des sorties scolaires à Oradour ou encore sur le chemin des Dames. Alors Oradour-sur-Glane dans le Limousin, chemin des Dames dans le département de l'Aisne. Je suis persuadé que c'est par l'éducation que l'on peut sauver les générations futures et les rendre plus civiques. Il y a tellement de choses magnifiques à faire pour s'instruire avec les nouvelles technologies au lieu de s'abrutir avec des vidéos stupides sur un célèbre réseau social en 6 lettres, avec 2 T. Voilà. Je ne l'ai pas dit. Hein. blague à part, le problème, c'est que vous savez aussi, c'est que malheureusement, on enseigne de moins en moins l'histoire. L'histoire et la géographie prennent de moins en moins de place dans le programme scolaire et c'est bien dommage. Et ça se ressent, je peux vous le dire. D'autres messages qui me sont parvenus, c'est Pierre qui nous a écrit ce soir, qui nous donne de ses nouvelles. Je suis très heureux de le lire. Salut, coucou, bonsoir. Un massage, bien sûr, pour vous dire bonjour. Voilà, vous débrouillez avec ça. Un message pour vous dire bonjour. Pour le devoir de mémoire, il y a 2 semaines, j'ai visité pour la première fois le mémorial de Caen. Ça m'a rappelé mes sorties scolaires sur les plages du débarquement. Un devoir de mémoire qu'il faut faire perdurer. Notre France a une histoire que les wokistes ne nous enlèveront pas. Je dis non à la cancel culture. Alors oui, continuons de faire notre devoir qui est de faire vivre la mémoire de ceux qui sont décédés pour libérer notre territoire. Continuons d'expliquer aux enfants à quoi sert cette stèle au milieu de tous nos villages qu'on appelle monuments aux morts. Alors oui, il faut garder en mémoire que la France a une histoire qui a eu des heures sombres et que par respect pour nos soldats français et alliés décédés lors de cette guerre, nous continuerons à leur rendre hommage. Ce soir, message depuis Tours, les bons chiffres et la prudence à tous, a signé votre Ronflex. C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir ce soir. Merci Pierre Lefi qui nous a dit « Mon grand-oncle a tiré les premiers coups de canon le jour du débarquement. Il était sur le navire Georges Legge. Il s'appelait Léon Christnac. » Merci Lefi pour ce témoignage. Julien qui nous emmène en Amérique du Nord. Un de nos auditeurs qui nous écoute fidèlement grâce à l'application depuis l'Amérique du Nord et qui nous a écrit « Pour le sujet du jour, il est important de commémorer ces événements pour le respect du sacrifice des gens qui ont versé leur sang pour notre pays, culture, tradition et gastronomie. Encore des élus d'écologie, les verts wokistes qui veulent détruire notre pays. J'ai déjà vu lors d'une sortie de vieux véhicules une dépanneuse de la Deuxième Guerre mondiale, une Ward. La France avec un moteur continental 6 cylindres de 8 litres 2, j'imagine, essence et une consommation moyenne de 95 litres au 100.
Oui, au 100.
On est sûr de ça? 95 litres au 100. Bonne soirée à tous. Et il faut faire le plein tous les combien de temps? Toutes les 3 minutes?
Non, il y a le ravitailleur qui roule derrière.
Oui, c'est ça. Merci Julien qui nous ajoute dans le Wisconsin avec 30 degrés et grand soleil, mais bloqué sur l'autoroute 39. Ben, qu'est-ce qui se passe sur l'autoroute 39 dans le Wisconsin? Marielle, oui, les infos.
Oui, on aimerait bien savoir. Voilà. Ben, en tout cas, pour la petite info météo, 31 degrés 17h à Avignon cet après-midi. Oui. Voilà.
Je ne vous entends plus.
Oui.
Allô, Marielle.
Mais par contre, il peut.
Voilà. Ouais, bah,
on aimerait savoir pourquoi il est bloqué. Par
chacun
contre.
Chacun sa croix. Voilà, c'est ça. Merci, vous m'avez trouvé la bonne réponse. Majid qui nous a écrit ce soir également. Bonjour Sébastien, bonjour l'équipe. Donc, moi, la Deuxième Guerre mondiale, la bataille, c'est une guerre qui m'a passionné. Pardon, j'ai été militaire, bon, bah, comme beaucoup. Et la bataille qui m'a vraiment épaté, c'est la bataille du château d'Itter. Alors, j'espère que je prononce bien. Cette bataille-là, tu as un bataillon de soldats allemands qui est parti voir des soldats américains pour aller secourir des Français dont il y avait la sœur du général de Gaulle dans le château d'Itter. Et des quelques gradés, alors que les nazis partaient vers ce château-là pour l'exterminer. Et c'est grâce au sacrifice de soldats allemands que ce château-là a pu être libéré et que ses occupants ont pu aussi être libérés. Après, je ne vais pas écrire un long texte pour éviter de déranger, mais tu ne nous déranges pas Majid, on apprend plein de trucs ce soir. Mais renseignez-vous sur la bataille du château d'Itter. Vous en aviez parlé avec Charles de Gaulle, Hervé, à l'époque ?
Non, j'ai pas eu le temps. Il y avait pas mal à faire.
Oui, voilà, c'est ça. Merci Madji en tout cas, parce que bah, j'ai noté un château d'Itter. Je vais aller me renseigner, parce que c'est moi, je perso, c'est aussi une période qui me fascine. Sampaïarkas, non, ça je peux pas le dire. Sampaïarkas, ça je peux pas. Il y a des choses dans la vie où c'est pas possible. Voilà. Hervé, je vous entends rire hein, derrière. Je vous entends rire.
Non, mais je cherche.
Non, je vous laisse découvrir. Laurent qui nous a ajouté, il y avait encore des GMC en 1987, des General Motors en 1987, au 38e régiment de transmission à Laval. Oui, mais il ne s'en servait plus quand même, Laurent, sérieusement. Audrey qui nous a écrit, bonsoir l'équipe, bien sûr qu'il faut faire, continuer les commémorations en hommage à tous ceux qui se sont battus pour notre patrie, à tous ceux qui ont laissé leur vie, une pensée à mon papa, médaillé militaire dans le génie et qui jusqu'au bout a donné tout son temps pour les anciens combattants et en était le président de l'association à Bron, c'est à côté de Lyon, hein, dans le département du Rhône. Je vous ai envoyé le diaporama hommage à mon papa, désolé pour la partie personnelle, mais vous pourrez y voir au début quelques commémorations qu'il a pu faire, mais c'est très intéressant. Audrey, merci beaucoup. Papa qui a donné les trois quarts de sa vie à son métier, qu'il aimait plus que tout, je pense qu'il n'aurait pas mâché ses mots s'il était encore parmi nous, s'il avait entendu dire qu'il fallait arrêter ses commémorations. Et oui, certains élus se sont posés la question face au manque d'intérêt des fois de leurs concitoyens, hein, tout simplement. Pas mal d'autres messages, hein, évidemment, ce soir, vous avez été très très nombreux à participer. Phil 13 qui nous a écrit également, bonsoir les studios, Sébastien dans la famille, des inconscients de la route, trois voix, puis deux, et une voix pour des travaux. Jusqu'à là, on est dans une logique, oui, je vais y arriver, que
de
tout le monde, voilà, merci, qui me dépasse à droite dans le balisage, et oui, c'est de ma faute, je lui fais perdre du temps, trop de gens se permettent tout et n'importe quoi la route, bref, no comment, 212 à tous, je vous embrasse. Je me demande s'ils auraient tenté de dépasser les tanks et compagnie, là,
et oui.
Dans les zones de travaux.
C'est...
Voilà.
C'est affolant.
Qu'est-ce que c'est, ça?
Ça, c'est, la musique du jour le plus long.
Mais oui!
Et oui!
Oui!
Hello, le soleil brille.
Voilà!
Alors, justement, on peut laisser un petit peu la musique en fond. Une petite brève comme ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une autoroute, une partie de l'autoroute A1 en Suisse, dans le canton de Vaud, entre Avenches et Payerne, qui est toujours coupée à l'heure actuelle. Elle a été coupée depuis hier soir 21h jusqu'à demain matin, c'est 9h. Et c'est coupé parce que tout aujourd'hui, il y avait un exercice avec l'aviation suisse, vous savez, qui décolle et atterrit sur des autoroutes. Et vu ce qui se passe justement à l'est de l'Europe, l'armée de l'air suisse, la chasse suisse a décidé de reprendre des entraînements et donc l'autoroute A1 coupée entre Avenches et Payerne, donc pour ces exercices qui ont eu lieu toute la journée d'aujourd'hui.
Eh ben, on aura encore appris quelque chose ce soir, de plus en tout cas, parce qu'on a appris plein de choses. Richard qui nous a envoyé plein de belles photos, il nous dit coucou Seb et à tes copilotes pour le thème de ce soir, pour mon opinion personnelle, oui, il faut poursuivre les commémorations militaires car ça fait partie de notre histoire et garder en mémoire les militaires qui sont morts pour qu'on soit libre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et très bonne émission. Bisous. Hashtag miam miam, hashtag les bons chiffres, hashtag respecter le corridor de sécurité, hashtag respect à tous nos routiers. Je vais pas avoir le temps de donner tous les autres messages parce que vous avez été nombreux. Hein. Belle participation encore une fois ce soir dans l'émission, mais malheureusement elle prend déjà fin et on aurait pu encore en parler pendant des heures, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, tellement de choses à dire. Moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est d'aller voir ces plages du débarquement et, comme l'a dit Boulon, plutôt hors commémoration, vous aurez plus de temps pour tout voir et plus sereinement. Mais voilà, n'hésitez pas. Et puis, faut aller voir tous ces beaux musées qu'il y a un petit peu partout en France qui nous racontent, pas forcément de belles histoires, ça c'est sûr, mais en tout cas qui nous raconte notre histoire. Et je voulais vous remercier pour tous vos messages et vos témoignages, et encore merci pour votre participation. Le jour le plus long, voilà, bah oui, ça a commencé à 21h15, comme je vous l'ai dit. Un grand merci à Marie-Dominique Berthaud qui m'a grandement aidé à préparer cette émission. Marielle et Hervé, merci les amis et très belle soirée.
Merci à vous, c'était bien d'avoir fait une émission sur le sujet. Voilà, merci à tous.
Bonsoir Hervé.
Bonsoir Sébastien, bonsoir Marielle, bonsoir à toutes et tous. Et vous connaissez la formule magique pour clore l'émission ce soir, Sébastien?
Oula, non, j'ai peur.
Rompez les rangs.
Bon, demain, c'est jeudi, c'est la playlist du...
Dimanche.
Hervé ?
Jeudi.
Ben non, c'est la playlist du lundi. Allez, je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit, et la prudence ou la bonne nuit. Je vous dis à lundi, 21h. Prenez bien soin de vous, car chaque jour, chaque nuit est une vie. Travaillons ensemble à la beauté des choses. 73 51 88, soit 212. Hashtag respectons les routiers. Vous écoutez le 107.7, 23h02.
Retrouvez Les Routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi, 21h, 23h sur Radio Vinci Autoroute.